Je suis tout à fait
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité à Parole aux Auditeurs, votre cadre d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. Bon nombre de personnalités et des populations africaines appellent aux réformes institutionnelles profondes de l'Union africaine. Certains parmi ces observateurs estiment que la grande réforme que tous et chacun des Africains attendent de tout vœu, c'est la création du Parlement africain et l'organisation cyclique et régulière des élections des députés africains. Ceci pourrait, selon eux, pousser certains dirigeants africains d'éviter le prolongement de leur mandat et actionner plusieurs projets intégrateurs sur les continents. Alors, qu'en pensez-vous? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 09 99 07 63 30 ou encore les 09 97 06 43 30 ou encore le 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'interagir avec nous sur notre page Facebook ou encore sur www.radiocapi.net. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Vous êtes plus de 5000 à avoir été touchés par ces sujets et nous vous en remercions. Merci à toute l'équipe qui concourt à la production de cette émission, Marcel Ngombombala et Polydor Basunga. Ces programmes sont coordonnés et présentés par J.R. Lungembo Luabung Anji. Heureux de vous retrouver encore et bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne le professeur Pierre Vergence qui est avec nous. Bonjour professeur.
Bonjour, bonjour.
Depuis Paris, depuis la France, vous intervenez dans cette émission. Nous rappelons que vous êtes analyste politique. D'entrée de jeu, est-ce que par rapport à la dynamique politique du moment, la dynamique planétaire du moment, est-ce qu'il y a nécessité de pouvoir réformer certaines organisations, notamment l'organisation de l'Union africaine?
Il n'y a aucune nécessité, bien entendu. Mais il y a des opportunités à saisir. C'est clair que si l'Union africaine peut se présenter de façon plus unie et mieux structurée pour son fonctionnement interne et dans son rapport à l'extérieur, elle sera plus puissante collectivement, même si chaque État va perdre un peu d'autonomie. Donc c'est clair que dans les enjeux, je dirais, du 21e siècle, sur le plan du déploiement, je dirais, du capitalisme international, le fait que l'Afrique soit plus ou moins forte va lui permettre d'aborder cela de façon, je dirais, plus ou moins en meilleure position. Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une idée claire comment fonctionne, par exemple, le Parlement européen?
Alors, le Parlement européen, depuis 1979, est désigné par des élections directes qui ont lieu dans chaque État. Alors, il faut bien savoir que chaque État a eu la possibilité d'organiser ses élections comme il l'entendait. Donc les règles électorales varient d'un État à l'autre. Mais le principe est le même partout, c'est un suffrage universel direct. Donc ce n'est pas comme auparavant dans l'Union européenne, l'Assemblée, comme on l'appelait, parlementaire, était composé de parlementaires qui étaient choisis par les parlementaires. Et donc c'était un suffrage indirect, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir de 1979, donc jusque maintenant, les parlementaires européens sont directement élus dans la population, parmi la population, et dans un vote qui a lieu, en gros, c'est la même semaine, enfin les 15 mêmes jours, je dirais, dans l'Union européenne. Et donc de cette manière-là, on a un renouvellement systématique du Parlement européen, tous les 5 ans, et donc ça permet d'avoir des débats internationaux, si vous voulez, mais qui sont en fait des débats, institutionnels européens.
Alors, quel est l'apport d'un parlement sur un continent, par exemple? Quel est son apport?
Dans une institution comme l'Union européenne ou l'Union africaine, le parlement est en quelque sorte la manière de donner de la légitimité à la décision. C'est aussi une manière d'imposer, je dirais, aux dirigeants d'imposer aux dirigeants qu'ils suivent l'opinion publique. Parce que si on construit des systèmes de décision qui sont trop éloignés de la population, eh bien, on risque d'avoir l'intérêt des dirigeants qui est mis en avant par rapport à l'intérêt de la population. Le fait de faire élire régulièrement les représentants qui vont contrôler, dans le cas de l'Europe, la commission, et donc ils peuvent faire démissionner la commission, c'est bien ça dont il s'agit, à ce moment-là, ça lui donne évidemment beaucoup plus de légitimité à ce Parlement, et ça oblige la commission à tenir mieux compte de l'opinion publique.
Donc, l'avantage, c'est que ça donne la légitimité à la décision. Il impose aux dirigeants de suivre l'opinion publique et la décision aussi qui sont prises ne seront pas très loin de la population.
Tout à fait, c'est ça. Proximité et légitimité.
Proximité et légitimité. Ben alors, c'est ces dirigeants. Est-ce que vous pensez qu'il y a également cette liberté et aussi l'occasion pour les États d'éviter le clientélisme au niveau des élections?
Alors, évidemment, dans toute une série d'États, le système électoral, même pour le Parlement européen, n'évite pas complètement les risques de clientélisme. Dans tout système électoral, aussi États-Unis qu'en Inde, il y a du clientélisme. Hein. Donc, je dirais, il ne faut pas s'imaginer qu'on va complètement y échapper. On peut y échapper partiellement en mettant en œuvre des dispositifs de contrôle, hein, des dépenses électorales, etc., mais on n'y échappe pas complètement, bien entendu. Donc ça, le clientélisme, je pense qu'on n'y échappera pas complètement, mais on peut le contrôler.
Voilà, professeur, je vous garde en ligne le temps de retrouver également un deuxième invité et d'ouvrir les standards en même temps pour accueillir les auditeurs qui veulent intervenir dans cette émission. Alors, nous recevons dans ce studio Pasteur Emery Madifouta, team leader de la thématique sécurité au niveau du cadre des concertations nationales de la société civile. Pasteur Emery, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, vous venez de suivre professeur Vergence, analyste politique depuis France. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est le souhait quand même de certains Africains de voir aujourd'hui ce Parlement africain. Et comme l'a dit le professeur, ça va créer la proximité et la légitimité de certaines décisions. Parce qu'on sait que sur le continent, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de défis à relever.
Oui, je suis d'accord avec le professeur, mais pas totalement. Dans la mesure où, au niveau de l'Europe, mais qui est membre de ce Parlement, qui est membre de l'Union européenne? Un membre de l'Union européenne, si je ne me trompe, c'est celui le pays qui respecte d'abord la Charte européenne des droits de l'homme. Vous comprenez? Ça, c'est très important. C'est celui qui respecte, par exemple, la Charte concernant la gouvernance électorale. C'est celui qui respecte l'intégrité même physique de l'homme. Donc, en bref, un membre de l'Union européenne, ce sont les pays qui adhèrent au respect des textes. Or, nous savons que nombre de pays africains ne respectent pas leurs engagements. Et en droit international, humanitaire et droit de l'homme, d'un pays qui ne respecte pas ses engagements, comment on l'appelle ou on les appelle dans le monde international, ce sont des États voyous. Et nous en avons beaucoup ici en Afrique. Des constitutions qui sont remises en question à tout moment. Au niveau du Parlement, c'est la même chose. On assiste à une cacophonie. On révise la constitution sur mesure. On élabore des constitutions sur mesure. Le respect même des droits humains, il n'y en a pas.
Est-ce que ce Parlement africain ne serait-il pas un garde-fou?
Non, ça ne sera pas un garde. Pour arriver là-bas, il faut commencer par réviser les textes de base. Si on ne révise pas les textes de base, ça serait du copier-coller. Et il parle bien sûr ici de la proximité. Les parlementaires qui sont votés au suffrage universel, n'est-ce pas, direct, vous comprenez? Mais ici, peut-être pour certains pays, ça ne sera pas le cas. Où le président s'érige en monarque, en dictateur, ça ne sera pas facile. Où le président ne respecte même pas la charte de la bonne gouvernance concernant les élections en Afrique. Et la charte des droits de l'homme et des peuples. ne sont pas respectées. Alors, comment voulez-vous que ces pays, maintenant, africains, se réunissent pour mettre en place
le Parlement? Alors, parlons un peu de l'historique de l'Union africaine aujourd'hui. L'OIA et puis IA, comment c'est? Est-ce que cette mutation a-t-il apporté quelque chose?
Oui, il faut rentrer au niveau de la genèse même de l'OIA. Pourquoi les pères africains, je cite Kwame Nkrumah,
là nous sommes en 63.
En 63, mais bien avant. C'est là avec la conférence des pays non alignés où les idées ont émergé jusqu'à ce que on arrive en 1960. Maintenant, beaucoup d'États africains deviennent indépendants. C'était pourquoi? C'était juste pour libérer l'Afrique économiquement, politiquement. Hein, toutes ces dimensions-là humaines qui, n'est-ce pas, prenaient encore l'homme africain comme un être sans valeur. Mais après ça, les Africains sont rentrés encore dans leurs idéologies de ceux qui les colonisaient même. Et avec l'influence des blocs Est-Ouest, Nord-Sud, tout ça, on a vu toutes ces influences. On n'a pas libéré les Africains ou les pays africains.
Oui, parce qu'avant 60, c'était la guerre contre la colonisation. Voilà pourquoi ils ont créé l'Organisation de l'Union africaine. Mais en 2001, quand on connaît cette mutation de l'organisation de l'Union africaine à l'Union africaine. J'aimerais bien me faire une idée très claire, et tout comme les auditeurs également qui nous écoutent en ce moment. Qu'est-ce que l'UIA a apporté comme changement au niveau institutionnel? Est-ce qu'on a gardé des hommes forts aux côtés des institutions faibles?
D'abord, cette idée est partie de fait président Kadhafi, vous comprenez. C'est quelqu'un qui a milité pour l'Union africaine. Mais malheureusement, le sort qui lui a été réservé n'est pas...
La première idée, c'était
les Africains de s'approprier même les États d'Afrique, d'être libres, indépendants, de signer pour qui signe devient fort, n'est-ce pas? L'union fait la force. C'était de faire en sorte que l'Afrique devienne aussi un continent fort par rapport aux autres continents, en l'occurrence l'Union, le continent européen. Mais malheureusement, la fragilité, l'Afrique et les pays africains restent toujours fragiles. On voit les seigneurs de guerre, on voit les présidents qui s'érigent en monarque, en dictateur et consort. Alors que la genèse qui a poussé la mutation
de
l'organisation de l'Union, de l'unité africaine à l'Union africaine, était de rendre l'Afrique plus forte. Fort sur le plan économique, fort sur le plan de
l'autogestion. Mais parce que cet objectif n'a pas été atteint. Oui. Donc on peut parler aujourd'hui encore de réformes institutionnelles à mener dans cette organisation.
On peut parler de ça, mais il y a des préalables. Préalables par rapport au respect des textes qui militent en faveur des droits humains. Par rapport aux textes qui militent en faveur des élections et des bonnes gouvernances. Fort par rapport aux textes qui respectent la donne genre, par exemple, le respect des protocoles, par exemple, des Maputo et consorts. Dans d'autres pays, on ne les respecte pas. Alors, il y a ça. Il y a aussi le problème, n'est-ce pas, des projets intégrateurs. Le pays africain, ceux qui se sentent un peu plus riches par rapport aux autres, ne voudront pas se soumettre, n'est-ce pas, de certains des critères préalables à définir là-dessus. Il y a encore des problèmes où les Africains sont encore loin de voir que l'union fait la force. Être ensemble, avec tout ce que nous avons. On venait tout de suite là de débattre les problèmes des guerres à l'Est, des groupes armés, mais alimentés par le multinational et même le pays voisin. Vous pensez que ces pays qui vivent à base des ressources, par exemple, d'autres pays, des ressources naturelles d'autres pays, voudront qu'on ait ce parlement africain? Alors que, pour le moment, s'il faut réformer, il faut nécessairement réformer d'abord ces textes de base. Et vous avez l'exemple de la Turquie. Pourquoi la Turquie n'adhère pas jusque-là à l'Union européenne? Pourquoi? Parce qu'il y a des préalables. On ne va pas aujourd'hui admettre, n'est-ce pas, des pays à être
fermement... Donc privé, c'est de son autonomie. Voilà. Pasteur, on va revenir à vous. Oui. Le temps d'ouvrir les standards 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Faut-il, oui ou non, réformer l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine? Nous avons en ligne Maître Donatien depuis Congolo. Maître Donatien, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gilles. C'est ma voix, j'ai dit ma parole, monsieur Gilles.
Alors, quelle est votre contribution dans cette émission?
Oui, monsieur Gilles, moi, c'est en train de dire ceci. Je suis d'accord à cette proposition de la réforme au sein de l'Union africaine. En fait, monsieur Gilles, vous comprendrez ensemble avec moi que nos dirigeants africains, ce que je suis en train de dire, vous comprenez que nos dirigeants africains ont une mentalité que je peux qualifier quelque part là d'irresponsable. Pourquoi? Parce que vous verrez, même un président qui est président comme notre président de la République, là, chef de l'État, président de l'IA, mais vous verrez, notre président, il va se permettre de réviser la constitution de son pays. Au lieu qu'il soit exemplaire, mais moi, je suis d'avis, je suis d'accord pour qu'on puisse créer le Parlement africain. Celui-ci fera ce que les gens, ou le dirigeant ne peut pas commettre certaines erreurs, et puis il aidera aussi à donner un cadre juridique cohérent de l'Union africaine pour permettre de booster l'économie de l'Afrique. Et aussi pour à ce que nous soyons aussi respectés. Parce que, en Europe, nous avons le Parlement européen. Pourquoi pas en Afrique? Nous sommes riches, l'Afrique est riche, tout le monde veut venir en Afrique, alors ça sera mieux.
Cette tentative d'avoir un Parlement au niveau de l'Afrique, on a essayé avec la jeunesse. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Quel est le bilan? Comment peut-on l'évaluer?
Pardon, qu'est-ce que vous dites, monsieur?
J'ai dit, cette tentative d'avoir un parlement au niveau de l'Afrique. On a essayé avec le parlement de jeunes, au niveau, sur le continent. Mais est-ce que cela a donné les résultats escomptés?
Monsieur, je dirais que le bilan est largement négatif. Pourquoi? Parce que ce sont les politiques qui s'ingèrent beaucoup plus. Alors, je pense qu'avec le parlement des pays africains, il y aura quelque part là des responsabilités. Vous savez, pour devenir un parlementaire africain, ça on ne prendra pas n'importe qui. C'est pourquoi je dis, je suis d'accord, monsieur Gilles,
d'avoir un parlement africain. Merci beaucoup, maître Donatien. Christian, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, Gilles, et bonjour à tout le monde. Et
quelle est votre contribution?
Gilles, le plus grand problème ici, c'est d'abord l'homme. Il faudrait penser comment changer l'homme, sa mentalité, sa manière de faire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous vivons dans une rupture entre la pensée de père fondateur et la pensée des dirigeants actuels. Et donc, nous pouvons avoir mille et une, lois, textes et consorts. Mettons que la personne qui va appliquer ces lois et toutes ces dispositions n'a pas changé, eh bien, il y a aucun changement qui sera au rendez-vous. Et donc, moi, je crois que la vraie dynamique doit commencer au niveau interne de chaque pays. À partir du moment où chaque pays est, en quelque sorte, gouverné par une certaine monarchie, il y a des gens qui s'éternisent au pouvoir, il y a la longévité au pouvoir qui est l'idomicile. Et donc, même si nous avons un parlement africain, ce sont ces gens-là, les mêmes dinosaures, ils vont envoyer les lères, et les lères ne feront que du surplace. Il n'y aura pas de changement. Donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est beaucoup plus de chercher à soulever, non pas un soulèvement négatif.
Mais oui, mais Christian, vous avez suivi notre invité depuis Paris, depuis la France, qui a affirmé qu'effectivement, le système électoral partout au monde, que ce soit en Europe ou ailleurs, est teinté toujours des clientélismes.
Ça, nous ne refusons pas, mais à partir du moment, c'est le clientélisme, il y en a, mais lorsque, après chaque élection, ou encore le fait que tel ou tel autre s'éternise au pouvoir, c'est là l'occasion des morts et des morts, et qu'il n'y a pas changement, et en contrepartie, il n'y a que sa famille politique, et ces quelques personnes qui s'accaparent de toute richesse, il y a vraiment, je crois qu'il y a mille, il y a quand même matière à réfléchir par rapport à ça, pour dire que les élections en Afrique, ou encore la manière de la gouvernance en Afrique pose problème. humaine. D'où il faudrait réformer la manière de penser de l'homme, qui aujourd'hui ne se retrouve pas, je dirais, un bon terme avec les idées ou les idéaux de père fondateur. Donc même si aujourd'hui nous avons un parlement, ces députés ne feront rien absolument pendant que c'est là, en fait, pendant que dans leur pays, et dans leur pays d'où ils tirent l'origine, il y a encore des problèmes. Et lorsqu'ils iront là-bas au parlement africain, ça ne sera que du surplace. Il faudrait beaucoup plus penser par rapport à ça. Mais je crois qu'il y a quand même certaines avancées. Nous ne pouvons pas refuser que déjà une lueur de soir est désormais, là par rapport à cette présidence, à l'actuelle présidence de l'Union africaine. Mais seulement, c'est à compter de bout de doigts. Il y a combien de présidents qui sont consciencieux comme celui-ci? Et est-ce que ces présidents sont réellement accompagnés? C'est ça le problème.
Merci beaucoup, Christian. Voilà, merci beaucoup, Christian. On va prendre Héritier qui est à Kisangani. Héritier, bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, J.R. Lungembo, c'est Héritier Wamenga à partir de Kisangani.
Et quel est votre point de vue?
L'histoire politique de l'Afrique nous renseigne que les autorités africaines qui ont initié la création de l'Union africaine à l'époque, l'organisation de l'unité africaine, ne voulaient pas se dépasser pour mettre sur pied une organisation d'intégration susceptible de rivaliser les organisations comme l'Union européenne, pourquoi pas un État fédéral comme les États-Unis d'Amérique. Comme nous parlons de réforme, il est temps peut-être de penser à une réforme dans le sens débattre une monnaie unique, supprimer les barrières douanières, former une armée et une police internationale professionnelle pour l'Afrique afin de se mettre à l'abri des menaces néocolonialistes. Et aussi, il faut s'approprier d'une technologie spéciale pour la fabrication d'armes, car celui qui veut la paix, dit-on, prépare la guerre. Et si l'Afrique aspire au développement, il est temps d'éviter de s'accrocher au pouvoir, plutôt de travailler considérablement dans une parfaite unité.
Donc vous estimez que un parlement africain serait un moyen pour tendre vers le développement de l'Afrique?
Oui, c'est un indicateur très majeur, mais plutôt il faut mettre sur place une organisation plutôt d'intégration. Au lieu de se limiter à avoir un parlement, oui, le parlement n'est
pas... Mais il y a plusieurs organisations d'intégration. Quand je prends par exemple au niveau des régions et même des sous-régions, il y a quand même des organisations. Dans la partie ouest du continent, il y a l'IMOEA. Et quand vous êtes au niveau de l'est, vous avez dans les Grands Lacs, vous avez les CIRGL. Et au centre, vous avez les CESC. Alors, toutes ces organisations ou les au niveau de la région ou des sous-régions, mais qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Raison pour laquelle on se dit, mieux vaut proposer un autre paradigme. Mais d'aucuns redoutent que ces paradigmes puissent être aussi un paradigme piégé dans la démocratie.
Oui, c'est ce que j'ai lui-même, le CET Marie-Paul Awa avait parlé dans ce sens-là. Mais on avait le CPG, la communauté des pays, la communauté économique des pays des Grands Lacs, avec des objectifs pour imposer la paix dans la région des Grands Lacs. Mais qu'est-ce que nous avons comme ici? Il n'y a pas de changement. La CIRG, la conférence internationale sur les Grands Lacs. Qu'est-ce que nous avons comme impact sur terrain? N'est-ce pas, en RDC, la sécurité règne? Et toutes ces organisations ont failli, raison pour laquelle j'ai dit, nous devons plutôt penser sur une organisation à l'échelle internationale qui s'approprie d'une intégration tous azimuts.
Merci beaucoup d'avoir appelé Maître Donatien, héritier de Kisangani. On va prendre Josué. José, vous gardez la ligne, il est temps de revenir à notre invité, le premier invité qui est en ligne, professeur Pierre Vergence. Vous êtes d'accord avec nous en ligne?
Tout à fait, oui, vous avez écouté les
uns. Voilà, vous avez écouté les uns les autres. Quelle est votre réaction?
Ma réaction, c'est que vous ne m'aviez pas demandé s'il fallait transformer l'Union africaine en un système parlementaire. La question que vous m'aviez posée, c'était comment est-ce que ce système parlementaire a changé l'Union européenne? Donc, et pour une partie de remarques émises par plusieurs de vos auditeurs, je suis d'accord, effectivement. C'est-à-dire que l'Union africaine ne va pas être modifiée de fond en comble par le simple fait que les représentants à l'Assemblée parlementaire seront élus directement. Ce ne sera qu'un élément du changement global que l'Union africaine verra. Et effectivement, à plusieurs auditeurs ont raison, pour qu'il puisse y avoir un système, j'ai envie de dire, d'état de droit, dans les États africains, il faut que ce mouvement parte également des États. Il ne faut pas s'imaginer que ce sera une sorte de structure supranationale qui va imposer à chaque État la démocratie. La démocratie, ça se fabrique par la base, ça se fabrique à partir de militants politiques qui s'organisent pour que leur opinion soit respectée, et pas nécessairement prépondérante, mais respectée déjà. Et donc ce qui est important, je pense, c'est que le système électoral permet, c'est un des acteurs, d'amélioration de la condition de vie des populations, et ce n'est pas le seul.
Donc un des facteurs d'amélioration des conditions de vie de la population.
Oui, un des facteurs et pas le seul, effectivement. Et là, je suis d'accord avec toute une série de gens qui disent qu'il ne faut pas faire simplement du copier-coller, ça me paraît évident, il ne faut pas simplement faire du copier-coller, il faut s'inspirer des expériences étrangères. Les États-Unis, c'est une fédération, l'Inde, c'est une immense fédération, c'est la plus grande démocratie du monde, hein, ne l'oublions pas quand même l'Inde, hein. Et donc nous avons effectivement toute une série d'éléments qui permettent de voir comment on peut organiser un système politique où les pays gardent une partie de leur souveraineté et délèguent une partie de leur souveraineté à une entité supra-étatique. Donc une entité qui est une fédération aux États-Unis et aussi une fédération en Inde ou au Brésil, par exemple.
Oui, bah, l'Europe, c'est un système parlementaire.
L'Europe, c'est un système parlementaire. Alors, la plupart des dirigeants européens n'osent pas utiliser le mot fédération, parce que sinon, il y a une série de populations et d'États qui seraient très fâchés. La France, par exemple, ne veut pas entendre parler du terme fédération pour parler de l'Union européenne, parce que la France croit qu'elle est souveraine. Mais la France, c'est que des illusions, bien entendu. Parce que la France est coincée dans une logique d'inter-être, je dirais, d'interconnexion internationale, d'intersocialité, comme le dit Bertrand Badi, le célèbre auteur de relations internationales, l'intersocialité dans laquelle la France se trouve fait qu'elle a perdu sa souveraineté. Mais ça, c'est, nous sommes tous dans cet état-là. La Chine ne fait pas ce qu'elle veut, elle tient compte des contraintes extérieures et des États-Unis aussi, on l'a bien vu dans le mandat présidentiel qui vient de passer, malgré la volonté du président, les États-Unis n'ont pas fait ce qu'ils voulaient.
Voilà, on va revenir à vous, nous vous gardons encore en ligne, professeur Pierre Vergence, vous êtes à la liste politique et on revient dans ce studio avec Pasteur Emery Madi Fouta. Quelle est votre réaction après avoir écouté les uns et les autres?
Oui, après avoir écouté les uns et les autres, je dis que à ce moment ici, il ne faudra pas aller vite en besogne. Il faudra bien réfléchir pour mettre ces parlements africains en place. Parce que jusque-là, nos États africains ne s'adaptent pas encore à la mondialisation, aux standards internationaux, à ce qui concerne la démocratie, à ce qui concerne la gouvernance électorale, à ce qui concerne les réformes institutionnelles, à ce qui concerne les réformes dans leur ensemble. Parce que quand on parle de la réforme partout dans le monde, on vise des choses, des piliers. Il y a l'efficacité et la qualité. Alors que la qualité et l'efficacité font défaut au niveau des réformes que nous engageons dans certains pays africains et même dans notre pays. Je donne le cas de la réforme de l'administration publique, où nous en sommes aujourd'hui, après 2011, jusqu'aujourd'hui. Ça continue, mais de quelle manière? On ne maîtrise même pas les effectifs aujourd'hui. La réforme de l'armée, nous venons d'en parler. La réforme des finances publiques, où nous avons les trains de vie entre les institutions, qui balaye toutes les faveurs que pouvaient bénéficier les autres classes. Vous comprenez? Alors, pour arriver à mettre ce parlement-là en place, il faut commencer à créer ce texte en interne d'abord, et puis sortir en externe. Autrement, ça serait toujours du copier-coller.
Oui, mais parce que quand on entend les uns et les autres qui, au fait, soutiennent que le système parlementaire africain, ou encore comme à l'Europe et ailleurs, c'est un des facteurs d'amélioration des conditions de vie. Pourquoi ne pas tendre directement vers ça?
Mais posez-vous la question en Afrique. Partons de notre pays. Pour les législatures passées, on dit, nous avons dans notre mandature voté 50 lois. Mais examinez, allez dans le contenu de ces lois. Qu'est-ce que ces lois ont apporté comme changement?
Une forte production législative,
mais ça n'a pas amélioré les conditions. Ça n'a pas amélioré les conditions de vie des populations. Les populations demeurent dans la misère la plus totale. Vous comprenez? C'est ça le problème. Donc, le Parlement européen voit...
Est-ce que quelque part, nous ne donnons pas raison à cet auteur qui dit la démocratie piégée en Afrique? C'est un piège pour les Africains.
c'est même un luxe, disait Chirac ou l'autre là, que ça serait un luxe pour les Africains. Les Africains doivent d'abord réfléchir. Réfléchir en partant de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Plus nous sommes, n'est-ce pas, enfermés dans nos habitudes, dans l'enrichissement sans cause, sans le respect du bien communautaire, sans respect du bien commun. Vous comprenez? Nous n'allons pas évoluer. Même si nous allons au Parlement, on ne va pas se rappeler que nous sommes délégués par notre pays, nous sommes délégués par notre population qui est dans la misère. Mais là, on va, n'est-ce pas, chercher les intérêts des uns et des autres. Mais quand vous allez au Parlement européen, on ne défend pas seulement l'intérêt de son pays, mais on voit l'intérêt dans l'ensemble. Rappelez-vous le système de migration en Europe. On a traduit la France comme la Hongrie en justice parce qu'ils ne respectaient pas le droit des migrants et consorts. Et qui est ce pays africain qui va vouloir qu'il soit traduit en justice et même au niveau du Parlement européen qu'on parle de son pays de mal? C'est très, très difficile. On se comporte en défensif en quelque sorte.
Voilà. Alors, on va écouter Josué. Josué, vous êtes avec nous. Edmond également. Josué, vous êtes avec nous. Vous êtes à Bukavu.
Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi, c'est José Assani, coordonnateur du mouvement citoyen Rien sans le peuple.
Quel est votre point de vue par rapport à ces sujets?
Merci beaucoup. L'organisation, donc l'Union africaine, c'est une organisation qui doit être soutenue par tous les Africains souciés du développement de leur continent. Mais en fait, ma réflexion va graviter autour de des manques de volonté politique des dirigeants africains de mettre en place les recommandations, de mettre en place de bonne foi, j'ai dit, les recommandations de l'Union africaine. C'est-à-dire les réformes, en tout cas, la réforme en soi, ou bien les réformes, ce sont des bonnes choses, ce sont des choses à encourager, mais ce qui va faciliter, en tout cas, le succès de toutes ces réformes, la volonté politique, l'existence d'une volonté politique dans la mise en application de toutes ces réformes-là. Donc, il se fait remarquer en Afrique que nous prenons toujours de belles initiatives, mais qui n'aboutissent pas, en tout cas, au résultat escompté, faute de ce manque de volonté politique. Vous allez voir, c'est comme si les dirigeants africains, en tout cas, ils sont membres de l'Union africaine, mais ils ne sont pas, en tout cas, de bonne foi. Alors que l'Afrique peut prendre une initiative commune comme ça, mais ce sont encore les pays africains qui vont, en tout cas, je voudrais dire,
qui vont
s'entretuer mutuellement. Donc, aussi longtemps, en tout cas, que les dirigeants africains n'ont pas encore eu la bonne volonté politique d'appliquer de bonne foi toutes les recommandations de l'Union africaine, en tout cas, même si on pourrait mettre les
écrits à la tête de l'Union africaine, ça va pas résoudre le problème.
La chose ne changerait positivement. Voilà quelque chose que je voudrais ajouter par rapport à cette thématique du jour.
Merci beaucoup, Josué, d'avoir appelé des Bukavu et d'avoir contribué dans cette émission. Edmond, maître Edmond, vous êtes en Bandaka, bonjour, et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour mes téléjournalistes, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
Et pensez-vous que c'est nécessaire maintenant d'avoir un Parlement africain? Et quels sont les préalables d'après vous?
Merci. Oui, merci beaucoup. Je pense que comme ceux qui m'ont précédé, notamment l'invité ainsi que l'auditeur qui vient de parler tout à l'heure, je crois que en tant qu'Africain, nous serons ingrats de s'opposer à des réformes, et notamment les réformes qui vise l'intérêt de la population africaine. Mais j'espère que ici il faut qu'on se le dise que les pays africains sont des pays qui sont immatures, parce que on ne saura pas faire ce qu'on appelle les copier-coller avec l'Europe. L'Europe c'est un continent qui est consolidé, un continent uni. Vous allez voir que comment les pays se respectent mutuellement, c'est ce qui est contraire à notre pays. J'espère bien que il serait difficile à mettre en place un parlement africain, que les résolutions qui seront prises par ce parlement soient parfaitement exécutées par les différents pays. Vous allez voir qu'il y a certains pays qui s'entretuent, il y a des guerres à tout moment, il y a des pays qui ne s'attendent même pas. Voilà, donc c'est vraiment comme mettre la charrue devant le
feu. Oui, alors quel commentaire faites-vous lorsque nous lisons les commentaires d'un auditeur qui illustre ce que vous venez de dire par le cas qui s'est passé au Burundi avec Kourouziza Pépé Assonam, voilà, qui est parti, qui avait fait résistance même contre l'Union africaine et même la communauté internationale, qui a refusé catégoriquement de céder à la pression.
Oui, oui, donc c'est presque ça. Moi, je crois que à ce stade ici, serait précaire envisager un parlement africain.
C'est vraiment, ça sera c'est vraiment mettre la charrue avant le but.
Nos pays ne sont pas consolidés et nous avons des problèmes au niveau interne. D'ailleurs, nos parlements au niveau interne
posent déjà problème.
Ce parlement ne fonctionne pas comme il faut. Et envisager un parlement européen avec parlement africain avec des députés africains qui
devront
prendre des mesures, des résolutions, des recommandations qui s'appliquent à tous les pays africains. En tout cas, ça sera une chose difficile. Voilà pourquoi j'envisage que les réformes, l'Union africaine puisse aider les pays qui sont déchirés, qui sont en difficulté. En fait, la population, la vie de la population de chaque pays soit quand même aisée et dans l'avenir, on pourra envisager une...
Oui, mais Edmond, une question de curiosité. Quels sont les éléments que vous avancez pour prouver cette absence de l'unité au niveau du continent? Parce que déjà, les noms de cette organisation parlent déjà de l'unité elle-même, l'Union africaine. Donc, nous pensons déjà à l'unité des États.
Oui, mais cette unité, c'est une unité sur l'être. C'est une unité qui est
sur
les documents, sur la charte, sur les traités. Mais en fait, sur le plan de la pratique, les pays ne sont pas en unité. Nous avons des pays qui s'attaquent à tout moment, et ça sera difficile.
Ou des chefs d'État fonctionnent en électron libre. Vous avez les cas de Congo-Brazzaville.
Tout le monde, donc ça sera difficile.
Voilà. Vous avez les cas de Burundi, vous avez les cas de Congo-Brazzaville, vous avez le cas tout récemment du Ghana, avec tout ce qui s'était passé dans ces pays. Bon, voilà. Donc, merci beaucoup, Maître Edmond, d'avoir appelé 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315. Ou par internet pa@radiookapi.net.
Merci encore de votre fidélité, professeur Pierre Vergence. Vous êtes analyste politique et vous intervenez dans cette émission depuis la France. Maître Edmond parle d'un continent qui n'est pas consolidé et où il n'y a pas d'unité, ça sera difficile d'atteindre cet objectif. Comment réagissez-vous?
Mais d'abord, je voulais quand même préciser que je n'interviens pas depuis la France. Donc, je suis dans une université en Belgique et je suis également professeur à l'université catholique du Graben à Boutembo, dans le Nord Kivu. Donc, je ne suis pas français. Ce n'est qu'un détail. Le principal, je dirais, c'est effectivement le fait qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur la situation européenne quand on a créé le marché commun en 1957. Les pays européens sortaient d'une guerre, on était à peine 12 ans après une guerre qui avait détruit une grande partie de l'Europe, et qui avait été causée par des tensions intra-européennes, et je dirais l'Union européenne est apparue comme un moyen de freiner les possibilités d'une nouvelle guerre en Europe. Et c'est comme ça, effectivement, la situation entre les Allemands et les Français en 1957 était encore très tendue. Beaucoup de gens encore en France craignaient qu'il y ait une reconstitution de l'armée allemande. Et donc il y avait d'énormes peurs sur le continent européen quand on a mis ça sur pied. Donc je dirais, il ne faut pas attendre trop que les choses soient en train de fonctionner convenablement pour essayer de les forcer à fonctionner convenablement. Mmh. Et donc là, je dirais, il y a toute une série de moyens, comme je disais, par en bas, par les militants politiques, ils font pression sur les dirigeants politiques, mais aussi des pressions que les dirigeants politiques peuvent se mettre les uns sur les autres. C'est vrai que si on organise une Union africaine qui est plus interventionniste et qui est plus en train de défendre la démocratie, ben on aura peut-être effectivement un système qui fonctionne un peu mieux. Mais il ne faut pas oublier que la
charges, les compétences, les missions de l'Union européenne en 1957 n'étaient pas du tout la démocratie. C'était un marché économique. Mmh. C'était un système commercial. Et donc, ça ressemble assez à ce qui a été mis en Afrique en place avec l'OADA, l'harmonisation des droits africains. Et donc ça, c'est vrai que c'est intéressant de voir que cette harmonisation du droit des affaires, ça permet effectivement de commencer à avoir entre responsables économiques une règle commune qui s'impose. Et à partir de là, on peut s'imaginer qu'on peut élargir la légitimité de l'Union africaine en faisant jouer les citoyens.
Mais alors, mais quand on regarde, c'est vrai, il y a manque d'unité, et surtout au niveau sur les continents, c'est que il y a plusieurs organisations sous-régionales et même régionales qui fonctionnent vraiment en électron libre. En électron libre, et les résultats ne sont pas ces escomptés.
Bien sûr, mais ça, en Europe aussi, on avait ça. Il y avait à ce moment-là le Benelux qui existait entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, et qui n'ont jamais été intégrés en tant qu'organisation Benelux dans l'Union européenne. Ça a fonctionné à côté, et puis à un moment donné, on a constaté, il y a quelques années, que le Benelux était presque devenu complètement obsolète, et donc ce n'est plus maintenant qu'une coquille vide. Et donc il y a eu tout un temps des organisations régionales qui était effectivement concurrente avec l'organisation de l'Union européenne. Et ça peut être le cas. On peut organiser une Union africaine en tenant compte du fait que, bien sûr, les pays de l'Afrique des Grands Lacs ont plus de contacts entre eux, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont plus de contacts entre eux, les pays du bassin du Nil ont plus de contacts entre eux, les pays d'Afrique australe ont plus de contacts entre eux. Ça n'empêche pas en plus de ces organisations régionales, il y a une organisation continentale qui essaye d'harmoniser au mieux la vie de l'ensemble des citoyens d'Afrique.
Voilà, on va accueillir également d'autres auditeurs qui nous ont rejoints, et puis on retrouvera Emery Badifouta. Professeur Vergence, nous vous gardons encore en ligne. Amos, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, Gilles.
Quel est votre point de vue?
En fait, je salue d'abord le sujet que vous avez choisi, mais beaucoup de gens sont un peu surpris d'apprendre qu'on veut juste revoir les institutions au niveau de l'Union africaine. C'est une bonne chose, mais moi je doute fort que cela réussira. Pourquoi? Parce qu'à part le fait qu'il n'y a pas d'amis entre les États, mais chaque État ne vise que ses intérêts, il faut aussi comprendre que chaque président africain à son boss ou son mentor en Occident.
Oui, mais pourquoi ça marche en Europe? Parce que vous pouvez quitter la Belgique pour aller à l'Allemagne, vous passez par la France, vous ne verrez pas de barrières physiques.
Tout à fait. Comparer l'Europe.
On sent réellement la libre circulation des personnes et de leurs biens.
C'est Réveille-toi debout parce que il n'y a pas rapport. D'abord, les Occidentaux, les Européens aiment leurs États, ils aiment leurs peuples. Chez nous, nous avons toujours eu des égoïstes au service de leurs intérêts, au service de ceux qui les régiment souvent comme président de la République. Parce que souvent en Afrique, ils sont là des présidents qui sont réellement élus par leurs peuples. La plupart des fois, ce sont des gens nous imposés par les mêmes Occidents au nom de leurs intérêts. Et les conséquences, c'est nous, peuples africains, qui les vivons à différents niveaux, à différents degrés. Et cela dépend maintenant de l'organisation de chaque pays au niveau interne, comme on a toujours dit. Moi, je pense que notre chef de l'État risque de s'envrier, comme je l'ai encore dit, qu'il devait d'abord se concentrer sur le problème du Congo, qui est aujourd'hui dans la vie, dans tous les domaines. Et que, une fois le Congo est déjà un pays respecté, et que d'autres pays peuvent craindre, c'est là qu'il devait maintenant accepter d'accéder à ce poste. Mais au niveau que nous sommes aujourd'hui, le président, si du moins il accepte tout ce qu'il est en train de vouloir envisager, ça risque d'être comme des promesses qu'il a données au niveau du Congo. Je vais me sacrifier pour que la paix revienne à l'Est. Je vais faire des semaines au Nord Kivu pour que je mette sur les atrocités de Beni, et rien ne s'est jamais réalisé. Il a mis fait même à la commune de Minembwe, mais jusque-là, la commune est viable. Pour dire, le président devait d'abord être le président. Il risque de donner des promesses qu'il ne réalisera pas dans une année. Et celui qui sera ridicule, il aura des difficultés et au niveau du Congo, et au niveau de l'Afrique, ça serait difficile pour lui.
Mais voilà, mais on sait que la présence des djihadistes aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans la partie ouest du continent, mais de plus en plus, on signale leur présence, même dans l'est, la partie du Grand Lac, vous le savez bien, avec l'insécurité qui règne dans en RDC, on cite quand même quelques présences de l'État islamique. Alors donc c'est déjà tous ces problèmes. Est-ce que vous ne pensez pas que ces problèmes n'est plus au niveau d'un État, mais c'est au niveau du continent qu'il va falloir trouver une solution et que le système parlementaire africain serait un des facteurs, comme l'a dit d'ailleurs notre invité, d'amélioration des conditions de vie et pourquoi pas de pacification du continent.
Tout à fait, cela serait juste si du moins le président africain ne serait pas de lâche. Parce que je prends un exemple, on a vu comment Kadhafi a été sacrifié. Mais est-ce que vous avez vu cette union des présidents africains autour de Kadhafi? C'est là qu'il ne comprend pas que parce qu'il y aura un parlement africain qu'ils vont parler même langue, ils vont parler même langage, je doute fort. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons toujours connu des présidents égoïstes. Chacun ne voit que lui et sa famille.
C'est pas intérêt.
Il ne sert que celui qui l'a mandaté ou celui qui a facilité sa nomination à la tête du pays.
Merci.
Voilà
beaucoup.
Pourquoi on peut envisager ce parlement, mais je vous dis, j'ai allé reculer. C'est de la bâtir ambiguë, ça ne produira aucun résultat. Et c'est là que j'appelle le président en place, le président congolais, de ne pas s'embrier. Parce que lui, il ne réussira pas avec ce qu'il veut parler de revoir les intérêts de l'Union africaine. Ça risque de l'embrier, vous me donnez raison.
Merci beaucoup à Amos d'avoir appelé de Bukavu. Et puis on va prendre ingénieur Moussafiri. Ingénieur Moussafiri, vous êtes avec nous.
Bonjour JR et bonjour à tous.
Vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire ici à ce niveau du débat, nos autorités africaines, il faut avoir la volonté politique pour former un seul parlement de l'Afrique. Mais ça ne sera pas bon parce que nos autorités africaines, certains d'entre eux, profitent de cette occasion quand ils sont au pouvoir, de prendre le pouvoir comme héritage. Et une fois qu'ils se semblent de quitter le pouvoir, ils vont donner le pouvoir à ce précédent, disant qu'ils ont changé seulement ils font l'échange de pouvoir. De l'autre côté, nous remarquons que nos autorités africaines, beaucoup d'entre eux en profitent pour sécuriser les pays voisins et les piller. C'est pourquoi ils ne peuvent pas accepter de faire sans qu'il y ait un seul parlement et cette réforme des institutions de l'Afrique, ils ne peuvent pas être contents de ça. C'est pourquoi ils vont chercher tout moyen pour bloquer ça. Mais si une fois ça pouvait tenir, ça pouvait nous aider, nous les Africains, à avoir un seul parlement, les gouvernements africains. Ça serait bon. C'est ça ma contribution.
Merci beaucoup, ingénieur Moussafiri. On va terminer avec Kalo, Kaloji, Mboujimaï. Kalo, merci d'être avec nous. Vous êtes à Mboujimaï. Bonjour.
Oui, bonjour, Radio Okapi. Oui, c'est Kalo Kaloji, comme vous venez de le dire, mais je suis pour les réformes au niveau de l'Union africaine. Entre autres, pour avoir, par exemple, un parlement africain. Mais moi, je vois, voyez les problèmes que nous avons ici au Congo. C'est le même problème qui se trouve aussi au niveau de l'Afrique. C'est que nous constatons, comment expliquer que les gens qui doivent faire l'effort pour qu'il y ait ce parlement-là, ce sont ces mêmes gens qui n'ont même pas cette volonté-là de quitter le pouvoir. Moi, je ne vois pas cette démarche-là aboutir. Pour que cette démarche-là puisse aboutir, il fallait qu'il y ait l'aval, par exemple, de leurs parrains. Parce que chaque président en Afrique est toujours parrainé. Ce que moi j'ai toujours dit, c'est qu'il doit suivre ce que les Occidentaux sont en train de dire. C'est pourquoi vous voyez, leurs démarches sont toujours tournées vers les États-Unis, sont toujours tournées vers l'Union européenne. Moi je ne vois pas, mais l'initiative, l'idée c'est bien, mais il faut vous rappeler aussi que Kadhafi a été tué à cause de cette initiative.
Voilà.
Merci pour ma contribution.
Merci beaucoup, Kalo. Alors, on va terminer avec vous, professeur Pierre Vergence. C'est vrai, aujourd'hui, cette question de parrainage qui peut constituer un frein à ce projet. Parce que bon, les auditeurs ont évoqué quelques cas. Aujourd'hui, c'est vrai, en France, on parle de cette affaire sous écoute de Sarkozy qui a écopé de 3 ans de prison et d'une année ferme. Et je crois par rapport avec cette affaire de la Libye. Alors, pensez-vous que ces parrainages, cette question de parrainage, va notamment constituer un frein à ces projets?
Mais bien sûr, je dirais, il y a des ingérences étrangères qui essayent de mettre tous les pays d'Afrique, en ce qui concerne l'Afrique, hein, sous tutelle, ça c'est certain. Mais les ingérences étrangères sont multiples. Il n'y a pas que les pays de l'Union européenne, les anciens pays colonisateurs qui jouent. Il y a aussi les États-Unis qui n'ont pas été colonisateurs de l'Afrique. Il y a aussi la Chine qui n'a pas été colonisatrice de l'Afrique. Il y a aussi l'Inde, il y a aussi l'Australie, je dirais. Toutes les puissances mondiales essayent de s'emparer de l'ensemble des ressources dans le monde. Ça n'empêche pas complètement la possibilité de fabriquer une politique, je dirais, souveraine dans chaque continent, dans chaque pays. Et je dirais, il faut, malgré les ingérences étrangères, malgré les tentatives de parrainage, effectivement, permettre à ceux qui sont, je vais dire, les filleuls, puisqu'on parle de parrains, ben, de se dégager de leurs parrains. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu, je dirais, dans la République démocratique du Congo durant les dernières années. Tout un temps, on pensait que Kabila avait été fabriqué par un pays étranger, et puis on a pensé que Félix Tshisekedi avait été fabriqué par Kabila, et on a vu qu'effectivement, il y avait des filleuls qui savaient rompre les liens avec leurs parrains et qui savaient tout doucement commencer à prendre de l'autonomie. Et donc, c'est un peu ça, je dirais, l'espoir, c'est que l'histoire tragique de Patrice Lumumba ne se répète pas à chaque fois. Et que de temps en temps, il y a effectivement des gens qui réussissent à tenir dans le temps et à avoir des politiques autonomes en Afrique. Et c'est ça qui compte, effectivement, que la souveraineté nationale soit respectée et que la souveraineté continentale soit le fruit, non pas d'impératifs venant de pays étrangers, mais d'une logique inter-africaine et
voilà.
Pas d'une logique internationale extérieure.
Pierre Vergence, merci d'avoir accepté d'interagir dans cette émission. À très bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Voilà, pasteur Emery, je reviens à vous, Madi Fouta. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette affaire? Donc le Parlement, le système parlementaire ne serait pas possible, selon vous?
Selon moi, ce n'est pas possible pour le moment. Il y a des problèmes très cruciaux auxquels les pays africains font face. Qu'ils résolvent d'abord le problème, par exemple, des guerres, d'appui aux groupes armés, le cas de la RDC à l'est du pays, le cas de Mali et d'autres pays, n'est-ce pas, du Niger, Nigeria avec Boko Haram et consorts. Ce problème n'est pas résolu. Le cas d'exploitation des ressources naturelles et qui profitent à d'autres pays qu'aux pays producteurs et tout ça. Il y a aussi ce problème de migration, hein, par exemple à la Libye.
C'est une question qui est vraiment une épine sous les pieds des Occidentaux.
Voilà, tous ces problèmes doivent être résolus. Et après,
ce sont des préalables.
Des préalables. Mm-hmm. Parce qu'en droit international...
Il ne faudrait pas qu'on ait un parlement qui va résoudre tous ces problèmes à la fois.
Non, je ne pense pas. Il faut savoir qu'en droit international, c'est que les textes signés s'exécutent de bonne foi. Il n'y a ni coercition ni contrainte.
Il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié.
Il n'y a pas d'amitié et tout ça. Donc le Parlement ne serait pas un cadeau donné à tel ou tel pays d'envoyer tel ou tel tout ça. Donc je pense qu'il y a des problèmes qui font que l'Afrique risque, est en train de vivre encore l'époque appelée la barbarie ou la sauvagerie avec tout ce que nous connaissons comme guerre, comme et terrorisme et consorts. Qu'on arrive à cela et qu'on essaie, n'est-ce pas, d'appliquer la charte de la bonne gouvernance et de la démocratie ainsi que la charte africaine des droits de l'homme. Une fois appliquée de bonne foi par tout le monde, on peut alors envisager, n'est-ce pas, la mise en place d'un
parlement africain. Pasteur Emery et Madi Fouta, merci de nous avoir honoré pour la deuxième fois cette semaine dans cette émission, hein, de votre présence pour éclairer la lanterne des uns et des autres et d'avoir eu l'occasion d'échanger avec nos auditeurs et de les découvrir pour la première fois. Voilà, merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Marcel Ngombombala, Polydor Basunga. Ce programme a été coordonné, présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie. À très bientôt pour un autre numéro. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Hein. À très vite.